Aujourd'hui, on a un invité, Julien Cardinal. On en a quand même parlé dans les deux derniers podcasts. Fait que vous allez pouvoir avoir sa version des faits à lui. Ça va être quand même beaucoup plus intéressant que notre interprétation, je pense. Donc, on va jaser avec lui. Simplement vous remercier d'être là encore aujourd'hui. 38e ce matin sur Spotify Canada Across the Board. Fait que merci beaucoup pour votre support, votre suivi. Fait que sans plus tarder, on va y aller avec cette entrevue-là qui devrait durer peut-être 20-25 minutes environ avec Julien Cardinal.
Absolument. Ben merci, Julien, de t'être prêté au jeu avant qu'on commence.
Bon matin.
Avant qu'on commence à enregistrer officiellement, je t'avais dit, je pense que c'est un exercice sain qu'on fait parce que dans une démocratie, à quelque part, à un moment donné, il faut être capable de se parler. Toi, tu as accepté de te prêter au jeu. Puis ça aurait été très facile parce que, tu sais, on le sait, là, des fois, là, les gens, si les autres n'ont pas leurs idées, ils ne veulent pas leur parler. Bref, ça dérape assez facilement. On a un premier ministre au Canada que aussitôt que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, c'est un fasciste ou c'est un nazi. Donc là, tu sais, je suis très content que ça ait pas, qu'on n'ait pas tombé là-dedans, puis on peut rester civilisé puis jaser. Surtout que le sujet qui retient un peu l'attention, parce qu'on rappelle aux gens que, bon, le retrait de ta candidature dans ta chereau pour remplacer éventuellement, si tu avais été choisi, Catherine Dorion, et si tu avais été élu. Et là... dans le fond, le sujet qui créait le problème, c'est l'histoire du masculinisme. Fait, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ta position par rapport à ça? On a déjà parlé un peu de ce que nous, on a vu là-dedans, mais tu peux nous dire si notre interprétation était correcte ou si il y a des choses à rajouter. Là.
Premièrement, merci messieurs de m'avoir invité ce matin. Ça fait plaisir de pouvoir avoir justement un espace ou une tribune sur laquelle on peut justement venir s'expliquer. Je vous dirais ça, puisque d'entrée de jeu, on s'était parlé un peu. Moi, je suis une personne de gauche, il n'y a pas de souci avec ça. Puis après, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais on m'avait dit « Attention, nous, on est plus tendance droite. » J'ai dit « Parfait, parfait. » Ce que je veux, moi, je suis un démocrate. Ça fait des années que je me bats pour la réforme du mode de scrutin. Je veux que les gens puissent sortir leurs idées, puis je veux que ça se fait de manière démocratique par ailleurs. Puis c'est une chose qu'on a un problème. On peut pas. Il y a beaucoup de tabous aujourd'hui parce qu'on est pris justement par des représentants politiques dans lesquels on n'a plus le goût de voter, tout simplement. Ceci dit, oui, le masculinisme. Bien, en fait, je m'en doutais bien que c'était ça, mais c'est vraiment par les médias, récents médias, que j'ai dit « OK, c'est vraiment le masculinisme » parce que l'information qu'on m'a donnée par rapport au rejet systématique de ma candidature, bien, c'était très minime. Toute l'information, vous l'avez eue, je vous l'ai donnée. On m'a dit « Ah, bien écoutez, nous, aussitôt, vous avez déposé votre candidat, bien, elle est rejetée. » J'ai dit « Mais pourquoi? » Parce qu'on ne peut pas vous le dire. C'est la première chose qu'on me dit, on ne peut pas vous le dire. « OK, t'as un peu, là, si j'ai fait une faute, je vais comprendre. » Puis je suis toujours du Québec solidaire, soit dit en passant, ce matin. J'ai dit, mais si je pour nuire au parti, ben, je ne vais pas aller plus loin. Là, je peux comprendre. Là, je suis un gars d'équipe, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi le malaise?
Puis on s'entend que l'enjeu est important parce que c'est le comté de Taschereau. Donc, techniquement, ce qui va être plus dur dans le comté de Taschereau, c'est gagner l'investiture. Ce ne sera pas l'élection générale en octobre, normalement.
Oui, absolument, parce que j'étais dans Vanier-les-Rivières juste avant. J'étais candidat accepté. Puis ça faisait une semaine déjà que je faisais ma campagne. Au moment que j'ai appris que Catherine Dorion ne se représentait pas, ouais. Je me suis dit, ben là. Est-ce que je continue à faire campagne? Déjà, il y avait deux candidates là-bas. Je dis, c'est parfait, c'est couvert, je ne suis pas tout seul. Je dis, mais moi, ça fait 14 ans que j'habite ici. J'étais le seul, jusqu'ici, j'étais le seul candidat déclaré qui habitait Taschereau, hein, soit dit en passant. Je dis, moi, je vais donner déjà une candidature de la place. Puis ensuite, ce que je vais vous donner comme interprétation, mais là, il y a des problèmes. Il y a déjà un problème avec la candidature d'Étienne Grandmont. Étienne Grandmont, j'ai aucun problème pour l'individu comme tel. Mon problème, c'est Manon Massé qui est venu le chercher puis venu l'appuyer officiellement. Et puis ça, c'est un gros problème dans une démocratie. Puis là, c'est ça, tout ce qu'on tourne là, aujourd'hui, la thématique, c'est l'antidémocratie. Tout ce qui est les manœuvres qui s'est fait, là, c'est ça que je dis, mais c'est opaque. Pourquoi ils n'ont pas dit? Pourquoi ils n'ont pas révélé ça? Mais déjà, on a Étienne Grandmont qui se présente sur les tribunes en disant « Manon Massé m'a appuyé ». Manon Massé, c'est pas n'importe qui, c'est une porte-parole du parti. Ouais. Donc, on a une porte-parole qui vient dire « j'appuie ce candidat-là ». Tu sais, Madeleine, je aucun problème avec Madeleine, mais puis moi-même, je me dis, ben là, on fait quoi? On est des figurants quand ton. Quand, pas le chef de parti, porte-parole, comme tu fais quoi? Tu parles au nom du parti, puis tu viens de dire, hey, ça va être Étienne Grandmont. Tassez-vous les autres. Là, je me dis,
on voit l'impression que ça donnait, c'est qu'il y a un candidat qui est entre guillemets parachuté et que l'investiture, c'est un peu un genre de pièce de théâtre, là, mais que c'est déjà lui qui est choisi, autrement dit.
Ah ben déjà, là, il y a un impact qui se passe là, puis ça, c'est, je me pose la question. Pourquoi j'en parle là? J'ai vraiment des grosses questions par rapport à Manon Massé, parce que dans la campagne de salissage que vous avez vue, on l'a très bien, vous l'avez noté, elle a été taguée. Alors moi, quand j'ai reçu une décision après, je ne sais pas d'où qu'elle vient. Là. Il y a eu un call là quelque part.
Est-ce que je me trompe quand je regarde le support que Catherine Dorion a eu envers Madeleine pour un tweet récemment, par exemple? Est-ce que ça se pourrait que Catherine, elle, de son côté, soit moins dans la direction de Manon Massé puis elle irait un peu plus vers Madeleine?
Ben, en fait, c'est spécial. Hein? Vous tombez Québec solidaire, je vais voir ma lecture. Là, je ne suis pas dans tous les secrets. Par contre, il faut se rappeler que Québec solidaire, c'est une fusion d'Option nationale. Ouais. Avec Québec solidaire, qui était beaucoup plus féministe, féminocentré, on va dire comme ça. Féministe centré, mais là-dedans, il y a du féministe de tout ça.
Du temps de Françoise David, principalement.
Françoise David, c'est une femme que je pense que tout le monde l'aime autour de la table. Là. Il n'y a personne, c'est pas une féministe qui c'est pas du genre féministe, j'ai pas de problème avec les féministes. Genre, c'est pas une radicale, c'est quelqu'un qui tempérait, parce qu'on aimait bien. Mais bon, elle a amené une sagesse qu'on n'a pas beaucoup, on a perdu. Alors,
c'était pas Catherine... quelqu'un de polarisant, tu sais, contrairement à d'autres personnages.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Mais c'est correct. Québec, c'est l'idée toutes sortes de monde. Hein. C'est une gauche plurielle, vous le savez. Puis déjà, la gauche, c'est difficile de se maintenir ensemble parce qu'on n'est pas dans des idées de conformistes, au contraire. Tandis que, bon, la CAQ, ils n'en font même pas d'investiture. Je ne sais pas s'ils vont en faire cette année, ils n'ont pas fait dernières élections. Fait qu'on est loin, là. Fait que là, au moins, on a une investiture qui semble biaisée ici. C'est ça que je dis. Mais au moins, on en a une. Puis donc, Catherine Dorion, puis Sazanetti, c'est des anciens d'Option nationale. Puis Option nationale, c'est, on s'entend, c'est des gens vraiment plus démocrates, plus nationalistes. Donc, mais il y a une convergence qui était là. Donc, à Québec, ce qui se passe, c'était Option nationale, en gros, c'était les anciens candidats qui ont été élus. Puis à Montréal, c'est plus le cœur de l'enseignement Québec solidaire. Mmh. Donc, au niveau des courantes comme telles, je ne peux pas vous dire que Catherine Dorion, comme elle est une vedette locale, donc c'était plus facile. Après, son... dans la manière qu'ils vont interférer les uns des autres. Moi, j'ai rien. Je me dis, gardez-vous une réserve, les sortants. D'habitude, c'est toujours mieux. Mais quand tu es porte-parole en haut, là, tu te gardes une grande réserve. Tu es porte-parole du parti. Tu ne viens pas appuyer aucun candidat. Tu ne viens pas interférer dans les interférences. Interférer
dans le processus.
Dans le processus électoral local. D'autant plus que c'est nettement donné que... Puis ça, c'est une erreur que je dois admettre. Au départ, quand on m'a téléphoné, là, écoutez... j'ai l'air confus un peu au niveau de la discussion là, téléphonique.
Non, c'est correct.
Je suis dans mon char, OK? Je ne l'ai pas à mon agenda, cette rencontre-là. Il m'appelle, je la prends, OK? Puis dans ma tête tout le long, mon erreur, c'est que je pensais que c'était le comité de coordination de Tachereau. J'ai pas branché, j'ai vraiment pas allumé que c'était celui du Central National. Pourquoi? J'ai dit, pourquoi qu'ils m'appelleraient eux? Je suis correct.
Donc, c'était les gens qu'on entend au téléphone dans votre appel, c'est vraiment des gens du comité national.
Oui, mais ce que je comprends, c'est qu'ils sont aussi dans Tachereau. Je n'ai pas compris, mais c'est là que j'ai essayé de trouver qui siège sur quoi. Puis encore là, c'est opaque. Je n'ai pas trouvé qui quoi. J'ai essayé de voir la propre structure de mon parti. J'ai mis ça à la trouver. Bon,
c'est ça, on a fait écouter un bout là, de l'entrevue, ben de l'appel téléphonique qui semblait un peu bon tournant en rond. Et puis là, après, t'as envoyé ta lettre, là. Je ne sais pas si c'était papier ou courriel. Là, mais
demande d'enquête interne.
C'est exact, demande d'enquête interne. Et finalement, la lettre qu'on t'a répondue, c'était en gros, on t'a dit ce qu'on avait à dire dans l'appel téléphonique et t'auras rien de plus.
C'est sans appel, puis on ne dira pas pourquoi, quels sont tes propos, quoi que ce soit. Là. On veut juste, par rapport à ce que tu as publié, quelque part, tu ne sais pas, là, ben, ça ne compte pas dans les valeurs de Québec solidaire. Alors, je me dis, ben, OK, ben, il me semble que les valeurs de Québec solidaire, c'est la transparence. On fait que ça, dire, ben, nous, on prend la transparence, on dit ça au gouvernement. Mais à l'intérieur, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de quoi qui se passe? Et, Là, ça devient politique à ce moment-là. Je dis, ben là, parce que je ne suis plus capable de le régler en interne, il faut que je chope. Je suis content d'en parler avec vous aujourd'hui. Mais là, le problème, c'est est-ce qu'il y a eu une analyse qui a été faite? Est-ce qu'il y a un compte-rendu qui a été fait? Parce qu'il y a une décision du COCO, du Comité de coordination nationale. Ben moi, ça me rappelle parce que là, vous l'avez vu, on a eu toutes sortes de décisions qui ont été prises par le gouvernement durant la pandémie, qui n'avaient même pas de compte-rendu. On dit ça n'avait pas de bon sens, on prend des décisions, mais on ne savait pas de compte. Mais là, on fait la même affaire. Mais s'il y en a un compte-rendu, ben, dévoilez-le. Moi, je suis membre de Québec solidaire. J'aimerais savoir au nom de quoi on fait le tri. Puis on dit, toi, tu peux passer, toi, tu ne peux pas passer. Parce que là, je peux même pas vous dire, malgré que le journaliste de ça a dit, ben c'est le masculiniste, j'ai pas de confirmation. Ils se gardent la porte de sortie de trouver quelque chose, mais on s'en doute bien que c'est le masculiniste.
Parce qu'à c'est mon livre. C'est-tu la première fois que tu te fais attaquer d'être un masculiniste ou c'est arrivé une couple de fois par le passé?
Pas vraiment, parce que déjà, le masculiniste, c'est un terme qui est plus ou moins compris, connu. Puis je parle avec vous, puis souvent, je rectifie, non, c'est pas masculinité, c'est masculiniste. Je dois reprendre parce que les gens vont mélanger les trucs, mélanger ces deux termes-là, parce que c'est pas clair, ce terme-là. Masculiniste, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble des mouvements qui se préoccupent de la condition masculine. C'est point. Après, dans ce mouvement-là, vous savez, il y a des mouvements là-dedans de toutes sortes. Il y en a des misogynes que je dénonce, là, on s'entend. Il y en a qui sont juste pour les droits des hommes.
Un des connus, par exemple, a été Fathers for Justice à l'époque.
Exactement. Exactement. Puis, en fait, j'ai écrit un article la semaine passée qui parle du féminisme inclusif. Puis, je parle justement de la documentaire qui avait fait Red Pills, qui disait « Moi, j'étais féministe au bout, au début. » Je les voyais comme mes ennemis, les hommes-là qui étaient là-dedans, dans ces fathers-là. Ben, ces hommes-là, moi, c'était des ennemis. Puis après son documentaire, ben, elle dit « Je me dis plus féministe. Je me dis pas anti-féministe. » Mais ça y a ouvert les yeux sur c'est quoi la réalité des hommes. Puis c'est vraiment bien. Puis en fait, c'est ce que je dis, moi, je dis que oui, il y a beaucoup de lutte à faire encore pour les femmes par rapport à des inégalités qu'elles vivent, mais il ne faut pas, de ce côté-là, dire, ben ouais, mais quand on parle de violence conjugale, ben non, mais c'est sûr que c'est les femmes. Non, c'est au-dessus de 20% que c'est les hommes qui subissent de la violence conjugale. Puis quand je dis les hommes, il y a des couples hétérosexuels et homosexuels là-dedans. Hier, je parlais avec une amie hier qui est propriétaire, elle dit, mes voisines sont séparées en bas, il y avait de la violence conjugale, tout ça, c'était un couple de lesbiennes. Mais c'est de la violence conjugale, c'est de la violence conjugale. C'est pas, il n'y a pas de genre à ça. Mais dire ça, puis là, je le dis là, aujourd'hui, là, ça, il y a des gens qui vont entendre ça.
Ouais, c'est un gros scandale.
Et là, tu n'as pas le droit de dire ça. Je me dis, mais en quoi qu'on n'a pas le droit de dire ça? Là? Puis en quoi qu'on commence à gérer, dire, ben OK, toi, tu vas te présenter là, puis pas toi, puis on ne dit pas pour les raisons. Je vais faire l'exemple le plus hard, puis j'aime pas aller là, mais moi, la démocratie à Hong Kong, là, elle me tenait à cœur. Là. Puis c'est exactement pourquoi ils n'ont plus de démocratie. Parce qu'à Pékin, ils ont décidé ça va être tel que vous allez pouvoir voter, puis pas celui-là que vos choix. Là. Ouais, j'ai l'impression. Puis là, je ne veux pas vous dire qu'on est une gang de totalitaires, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une méthode empruntée à ce qu'on veut. Ce type de totalitarisme-là qu'on ne veut pas, surtout quand on se revendique un des partis les plus démocratiques. Puis moi, ma pierre maîtresse, c'est pas le masculinisme là, au niveau de mon militantisme.
Non, c'était l'écologie politique. De ce qu'on comprenait. Là.
Ah ben mon premier, ça a toujours été en 2008. J'ai fondé le Parti de la réforme proportionnelle mixte au Québec.
Ouais, moi, c'était la réforme du mode de scrutin. Ouais.
Oui, ah, même avant l'écologie, c'était la démocratie qui était numéro un.
Oui, c'est la démocratie parce que tant que ça, c'est biaisé, le reste ne peut pas suivre. Peu importe ta cause, tu vas être pris à faire des votes stratégiques. Il faut régler ce mode de scrutin-là une fois pour tout. Puis soyez libertarien, que vous soyez maoïste, que je m'en fous d'où vous venez. Après, essayez de convaincre les gens autour, puis on aura des débats, puis on aura des discussions, puis on va avancer ensemble. Puis c'est exactement pourquoi aujourd'hui on se parle, parce qu'on n'a pas peur de parler de nos idées, puis de dire ben OK. Puis moi, je pars toujours avec l'idée que j'ai plein de contradictions. Je sais que vous avez toutes des contradictions. On en a tous. Moi, je suis conscient que j'en ai des contradictions.
On est des humains.
Et voilà. Et puis après, c'est ça. Mais c'est aidez-moi à aller trouver les miennes. Je vais faire une meilleure personne. Mais si tu te caches de dire « Ah, ben j'ai pas de contradiction, c'est ton bar. » Puis on dira même pas c'est quoi que ton bar. Puis c'est ça qui s'est passé dans mon cas. Je me dis « Mais c'est de l'obscurantisme profond. Là, on a un gros problème. »
Ouais.
Puis je suis bien content que vous... C'est drôle, c'est pas, vous n'êtes pas un média de gauche, n'est-ce pas?
Non, vraiment pas.
Mais je trouve ça triste que je suis pris avec une première interview. Vous êtes les premiers que je rencontre. C'est un média de droite qui va pouvoir parler de mon problème. Moi qui est une personne de gauche, je suis obligé de me tourner vers des médias de droite pour faire justice, pour faire éclairer ce qui s'est passé là. Je trouve ça triste. Puis je peux vous dire, je suis cancellé. Là. Je ne peux pas aller dans les médias certains médias de gauche ici à Québec.
Mais nous, on essaie d'avoir une culture de... Tu sais, genre, on a différents collaborateurs. Bon, on fait un podcast avec l'économiste Vincent Gelozo. Vincent, il est souverainiste. Il y en a qui le sont pas. Ça dérange personne. Puis, tu sais, ça a jamais été un sujet de litige. Fait que nous, je veux dire, même, on pourrait avoir des gens qui collaborent avec nous autres, qui sont de gauche, puis ça ne nous dérange pas. Tu sais, tant que ça reste civilisé puis que ça aborde des thèmes qui sont intéressants. Puis ça, je pense que ça, c'est une culture qui, me semble-t-il, existait dans les mouvements... Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des amis qui étaient impliqués dans le Parti québécois à l'époque. Et il me semble que dans le Parti québécois, mettons, le seul critère, c'était que tu sois souverainiste. Après, tu pouvais avoir à peu près les idées que tu voulais. Ça tend, on dirait, à vouloir disparaître. Puis je te ramène sur les captures d'écran de l'espèce de campagne d'intimidation là, qui a été orchestrée par je ne sais pas trop qui. Et là... En gros, ben, premièrement, en fait, ton vice fondamental, d'abord, c'est d'être un homme. C'est ce qu'on a compris. Parce que le truc commence en disant, on est pogné avec deux doudes. Et là, je me disais, mais imaginez une seconde que Julien fasse le même truc, mettons, et dise, regardez, on est pris avec deux gonzesses ou avec deux...
Deux chicks.
Mais je trouve ça... Puis, tu sais, il y a un dicton un dicton populaire qui dit on peut marcher puis marcher de la gomme en même temps. Mais ça, moi, c'était exactement ça que ça me faisait penser. Dans l'esprit de qui, le fait de parler de la condition des hommes, ça implique, comme par définition, d'être contre les femmes. Celle-là, je ne l'ai pas compris. Je ne comprends pas ce raisonnement-là. On peut totalement être... quelqu'un qui est sensible à tout ce que vivent les femmes, les personnes LGBTQ+, peu importe, là, et aussi dire, ben écoutez, décrochage scolaire, majoritairement masculin, regardez en prison, qui est en prison, majoritairement des hommes, oui, il doit avoir absolument. Quelque chose socialement, regardez tout ce qui est problème là, de sexuel là, qui se ramasse dans les médias, tout ça, majoritairement, c'est des comportements qu'on associe aux hommes. Regardez toutes ces affaires-là. Il y a quelque chose qui se passe avec les hommes. On peut-tu en parler? Ah, tu parles de ça, fait que tu dois être misogyne. Mais quel raisonnement qui n'a pas de sens? Je ne comprends pas, ce raisonnement-là.
Oui, ben en fait, la semaine passée, j'ai rencontré... Vous, je ne sais pas, vous êtes situé où exactement? Je suis à Québec, évidemment.
Moi, je suis à Lévis.
Québec aussi, mon... Très loin. Vous voyez, ici, à Québec, il y a Autonomie. Autonomie, c'est un centre qui existe depuis 30 ans pour l'aide aux hommes comme tel. C'est André Beaulieu qui opère ça. Je l'ai rencontré la semaine passée dans le cadre de mon essai que je suis en train de faire. Puis je veux savoir c'est quoi l'aide qu'on donne aux hommes. Puis là, je suis allé à André. Puis André, il parle beaucoup. Il est une femme, mais il fait 28 ans qu'il fait ça. Il est psychologue formation. Puis c'est vraiment intéressant. Puis lui, il dit, moi, je suis une OBNL. Là. Puis aller chercher de l'argent là, pour les hommes. Fait, aucune idée comment ça peut être compliqué. Là, parce que automatiquement, ceux qui lèvent la main, mais il y a tout ce qui est bien financé pour les femmes, se fait très bien, mais tout de suite, lui, s'il lève la main, mais justement, il y a ce regard-là, il faut qu'il se défende. Puis, il va être le premier à dire, « Hey, vous voulez aider la femme? Commencez à aider l'homme. » Parce que justement, si on parle des problèmes de féminicide, là, c'est parce que c'est un homme qui a disjoncté. As-tu moyen de le capter, lui, avant qu'il se disjoncte? Ça suffit qu'il y ait des grosses contradictions, puis on va régler un problème social.
Au lieu de capoter dans les médias après, un coup que ça arrive. On peut-tu faire de quoi en amont? L'autre affaire aussi là-dedans, c'est tout ce qui entoure les... En fait, jusqu'à pas si longtemps, puis même encore aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe pas, un gars qui est victime, par exemple, d'agression sexuelle. Pourtant, des histoires... Puis tu sais, on en parlait avant qu'on enregistre, tous les clichés qui sont reliés aux femmes, on les connaît. On les a tous entendus dans notre vie. Mais il y a plein de clichés qui sont reliés aux hommes. Toi, c'est un peu ce que tu dénonçais dans ton article puis dans ton livre, de ce que je comprends. Et T'sais, à chaque fois qu'il y a un comportement, mettons, sexuel déplacé, un inconduite, ce genre de truc, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est un comportement de mon oncle. Or, on a tous déjà eu dans notre vie une tante ou une grande tante qui arrive puis qui te dit qu'il est beau puis qui te serre les joues puis qui veut te donner des becs. Alors, t'sais, les comportements déplacés envers les jeunes hommes et les jeunes femmes, t'sais, ça existe de tout bord, tout côté. Puis il y a comme une espèce de stigmatisation de l'homme comme étant, tu sais, l'homme, dans le fond, c'est un genre de prédateur tout le temps. Et, tu sais, on peut pas parler que ces gens-là aussi sont victimes d'autre chose. Mais pourtant, ça existe.
Ah ben, ça existe. Des hommes qui sont bons, qui sont gentils, qui sont généreux. C'est des gens qu'on aime profondément. Ça existe. Puis les gens qui nous écoutent en ce moment ont tous un père ou un frère ou un chum. Ils disent non, les hommes ne sont pas comme ça. Certains le sont. C'est encore une minorité. On peut pas. Moi, je suis bien à l'aise de parler de masculinité toxique. Je recommande fortement à tous les hommes et même les femmes de lire Pour l'amour des hommes. C'est écrit par une femme féministe, mais elle relate toutes ces statistiques-là. Elle y va et elle en parle. Puis je trouve que c'est triste. À quelque part, que ce soit une femme qui en parle. Puis c'est un problème des hommes que nous, on a peut-être oublié de. On parle de la crise de masculinité, mais qu'est-ce qu'on fait pour se prendre en main? Puis les femmes le font depuis un certain temps, surtout via le féminisme. C'est, les femmes, on adhère à d'autres statuts, mais les hommes, des fois, on est un peu. Là-dessus, c'est là que c'est pour ça que mon essai porte. Là les hommes, il faut se prendre en main plus que ça, parce que la société évolue, puis nous, il faut suivre. Après, il y a plein de discussions à avoir.
J'écoute ce que tu nous dis depuis tantôt, puis je me dis, mon feeling, c'est qu'une femme féministe des années 70 t'écoute et est probablement à l'aise avec à peu près tout ce que tu dis.
Absolument.
Alors qu'en 2022, puis je ne mettrai pas tous les féministes là-dedans, évidemment.
Merci.
Là, mais il y a une section de féministes de combat, je dirais, qui est de plus en plus agressive. Et on n'a plus l'impression que leur but, c'est de rendre la femme égale à l'homme. On a l'impression que leur but est d'éliminer l'homme de l'équation. J'ai l'impression que c'est ce féminisme-là qui commence à prendre un peu plus de place du côté gauche de l'équation. Puis c'est ce qui cause certains problèmes dans ton cas présentement.
Bien, c'est ce qu'on semblait voir, juste avant de te laisser la parole, c'est ce qu'on semblait voir dans l'échange. Tu sais, il y avait une désignation un peu... mesquine du masculin, puis là, tu dis... Là, moi, la question que je me disais, c'est, y a-t-il une politique officielle qu'il faut absolument qu'il y ait, mettons, un gars, une fille, quand il y a une investiture, ou finalement, les gars ont le droit de se présenter autant si c'est deux filles, c'est pas grave, si c'est deux gars, c'est pas grave. Parce que là, dans le fond, c'était comme un scandale déjà en partant qu'il y ait deux hommes. C'est comme si... en tout cas, bref, je trouvais ça particulier.
Ben, en fait, c'est déjà, on parle du groupe de salissage sur Facebook... Mais je pense que ça, c'est une minorité, mais qui parle fort, déjà. Mmh. On va parler d'un type de féministe, ce que tu appelles, Yann, ce féministe-là, qui est plus combative, mais il y a un mot que j'apprends souvent aux gens, là, qui sont, vous allez le connaître, là, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas, c'est la misandrie. Être misandre, c'est quoi? Mais c'est quoi la misandrie? Julien, c'est quoi la misandrie? Ben, tu sais, c'est quoi la misogynie? Ben, c'est la misandrie, c'est la même chose, mais envers les hommes. Il déteste les hommes. Et il existe un féministe misandre. Il est minoritaire, mais il existe. Il est misandre. C'est tout simplement, tu es un homme, tu ne peux pas parler. Tu es mal incarné, tout simplement. Parce que le féministe d'aujourd'hui, là, je vais prendre la définition pour pas dire des niaiseries, là, mais la définition du féministe qui vient de... je vais vous dire la source. Là. La source étant... parce que là, je ne vais pas me faire ramasser. Là. Féministe en commun, le conseil de la statue de la femme. Ça vous va-tu comme définition?
Ça devrait être correct.
Ah, c'est pas pire, hein? Okay. C'est bon, on y va avec ça. Ensemble d'idées et de mouvements orientés vers un but commun, atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie pour une société plus juste, plus heureuse et plus prospère. Alors, l'égalité entre les hommes, puis ça, j'ai écrit dans mon article justement de vendredi passé, là, le féministe inclusif, l'égalité entre les femmes et les hommes, est-ce que c'est vrai aussi de dire l'égalité entre les hommes et les femmes? Pour moi, j'ai toujours vu comme ça, mais il semble que c'est pas tout à fait ça.
Ben moi, j'ai des cours de maths dans ma tête. Moi, quand je vois l'égalité, je vois un signe égal avec deux choses de chaque
voilà.
côté.
C'est pas,
ben,
c'est pas une flèche. C'est bidirectionnel, ce truc-là.
C'est pareil.
Ah, mais, ah, il y a certains féministes qui oublient ça. Puis c'est ça le féministe comme tel. Puis c'est ça que je rappelle. Mais au moment que tu fais juste un one-way, il y a un problème. On parle d'égalité, mais moi, je souhaite qu'il y ait autant... Vous allez voir, drôle la phrase, je souhaite autant qu'il y ait de suicides chez les femmes que les hommes, mais pas à la hausse, là, à la base.
Ben c'est les suicides des hommes.
On s'entend, on s'entend. Mais ouais. Là, c'est des problèmes qu'on doit régler. Les universités, on le voit, c'est majoritairement, c'est des femmes qui sont là. Donc, il y a un problème au niveau de l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a entendu Grégory Charles avec des solutions... qui était peut-être boiteuse, mais il soulignait un problème.
Il disait, hey, là, au moins, faire il essaye quelque chose. Là.
Oui, parce que, écoutez, je vais vous faire un coup. Moi, j'ai lâché l'école en secondaire 3. Je l'ai lâché, puis je l'ai vécu, ce bout-là. Fait que ça, je pourrais en parler à titre personnel. Mais j'ai deux bacs aujourd'hui, universitaires. J'ai raccroché, mais j'ai pas... J'ai revenu. À un moment donné, on m'a dit, Julien, OK, là, tu peux décrocher. OK, c'est bon. Mais oui, mais c'est pas parce que j'étais un mauvais garçon. Je me dis, non, mais ça me parle pas, l'école, ça me parlait pas. J'avais des bonnes notes, mais ça me parlait pas. Il manquait de sens à ça. J'avais besoin d'accompagnement, évidemment. J'étais mal encadré. Je le vois aujourd'hui. Je le vois, j'ai un petit cul de 14 ans. Et je me dis, OK, non, mais aujourd'hui, je parlerai. Ça serait OK, je vais te donner les raccourcis, je vais t'expliquer pourquoi, puis je vais t'aider un peu avec des cours que tu n'as pas eu encore de philosophie, parce que la philosophie, je trouve que ça, on commence trop tard. Puis les jeunes qui se posent des questions existentielles, la philosophie va beaucoup les aider. C'est pas nécessairement des jeunes qui ont des problèmes de comportement liés à des violences, non. Mais il y a toujours des lacunes. Bon, on pousse avec les tuteurs qu'on a.
Absolument. Ouais. Julien, on aurait pu continuer, je pense, pendant une couple d'heures. Il y a pas mal d'affaires à dire.
C'est conforme aux attentes qu'on avait avec
ouais, c'est ça. Tu dois y aller pour des raisons là, personnelles, le travail et tout. Fait qu'on ne te retient pas plus longtemps. Peut-être juste le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une suite à l'histoire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Peut-être terminer comme ça. Ben, est-ce que tu as des intentions que tu veux partager?
Un genre d'appel, dans le fond?
Ben, un appel. Ben, déjà, merci à vous deux. Puis merci, grâce à vous deux, il y a des gens qui m'ont écrit. Puis mon entourage m'a dit, hey, on a parlé de toi cette semaine. Puis je remercie vraiment les gens qui ont pris la peine de m'écrire pour me dire, hey, abandonne pas, tout ça. Vous voyez, c'est des combats. Moi, j'ai pas la vie facile dans le sens que... je pourrais être de droite facilement, puis OK, je ferais mon mononcle à la CAQ, puis je passerais super bien, il n'y aurait pas de problème. Mais je suis de l'autre côté qui est vraiment le côté difficile de dire OK, là, t'es trop nuancé pour avoir des amis. T'es trop nuancé, ouais, mais là, t'es là, t'es dans la zone grise. Je suis là, mais c'est là que pour moi, la justice se fait. Puis on veut quelque chose de juste. Donc, on dit je pense que c'est en confrontant nos idées puis en se parlant. On va le faire. Puis
dans notre perspective, on voit Québec solidaire évoluer depuis très longtemps. Puis je te dirais qu'un jour, parce que là, le PQ puis les libéraux s'en vont, fait qu'il va rester principalement trois partis éventuellement. C'est notre perception des choses. Mais un jour, pour que Québec solidaire prenne le pouvoir, il va falloir, non pas qu'il soit de gauche très forte, il va falloir qu'il se centralise un peu, revienne un peu au centre-gauche. C'est là que les élections se gagnent. Puis, à mon avis, ils ont plus de chances d'y arriver qu'un gars comme toi, qui est capable de parler de l'autre côté de l'équation que des gens qui sont en mode cancellation avec des gens qui sont dans leur propre bande.
Oui, parce que un jour, si vous êtes... si par exemple QS arrive au pouvoir, vous êtes minoritaire ou peu importe, et là vous avez à parler avec des gens, vous aurez peut-être des gens du Parti conservateur, des gens de la CAQ, des gens de d'autres partis, et ça va prendre des gens qui n'ont pas un esprit sectaire, qui sont capables de dire
exactement.
Là je vais m'asseoir avec les gens de l'opposition ou avec les gens qui sont au pouvoir, puis on va trouver un terrain d'entente, tant de gens raisonnables. On ne peut pas continuer à se tirer de la boîte pendant que les gens ont des problèmes puis attendre qu'on arrive avec une solution. Là.
Ben, vous voyez, moi, je suis comme Gabriel Nadeau-Dubois, je suis quelqu'un qui peut parler avec n'importe qui. En fait, les représentants, ça va bien. Ce qui se passe, c'est qu'il semble que dans des instances de décision à l'intérieur du parti, ça soit noyauté d'un féministe exclusif. Il est là le problème. Okay. Il est là parce que ce qu'on dit aujourd'hui, là, s'il y a déjà des députés de Québec solidaire, écoute ce qu'on vient de dire là. Il y en a qui vont être surpris, qui vont dire ah, « ça se passe dans mon propre parti parce que moi, j'ai eu la malchance d'avoir écrit là-dessus Puis les autres ont dit, ben, c'est pas des enjeux dans lesquels que on s'occupait, mais on n'est pas contre de s'occuper des hommes. Mais je pense que c'est ce bout-là. Puis on le voit parce que, je vais vous dire un exemple, oui, ça évolue. On parle le port du voile religieux comme tel, ben, ça a été tassé, là. Ça a été tassé pour les élections, même s'il y a 2 ans, ça ne devait pas être pour. Il y a des modérés qui prennent plus de place. Puis moi, je fais partie des modérés qui ont peut-être dépassé un peu trop, puis là, ils ne sont pas prêts à ça. Mais
ils s'en vont, là.
On y va tranquillement, puis c'est sain. Mais qu'est-ce qui est sain, c'est qu'on puisse en parler, puis que grâce à vous, on puisse faire relayer ça, dire « Hey, attends un peu, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est du gris foncé, puis on va parler ensemble, puis on va se retrouver, en tout cas, on va trouver des ponts entre nous, c'est important. »